Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ou plutôt rebonsoir. C'est devenu comme une habitude, à l'exception de l'élection présidentielle qui mobilise encore. Les Français votent de moins en moins. Dimanche dernier, seul un inscrit sur deux s'est déplacé, un sur quatre chez les jeunes de moins de 25 ans. Dès lors, comment parler d'élections légitimes ? Faut-il, à l'instar de ce qui se passe par exemple en Belgique ou au Brésil, instaurer en France un vote obligatoire ? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, deux invités, mais un seul est dans le studio pour l'instant, François de Rugy, qui est donc député du nouveau parti écologiste et qui est favorable à l'instauration de ce vote obligatoire, va arriver, me dit-on, d'une minute à l'autre. Je suis en tout cas ravie d'accueillir Jérémy Moilec. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sociologie politique et vous travaillez actuellement à une thèse sur le vote blanc et oui. Le vote nul. Alors, Jérémy Moilec, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre position sur le vote obligatoire, vous êtes plutôt contre?
Je suis totalement contre même. À mon sens, mettre en débat la question du vote obligatoire pose un problème, puisque c'est finalement mal poser la question. On pose la question pourquoi les citoyens ne vont pas voter, au lieu de se poser la question pourquoi iraient-ils voter. Et en se posant cette question-là de cette manière, ça évite de rejeter les responsabilités sur les seuls électeurs. Et comme si d'ailleurs les citoyens étaient devenus un matin passifs ou naturellement désintéressés, incompétents. Mais justement à jeter les responsabilités sur les pratiques du pouvoir politique, les gouvernants, et notamment le fait qu'ils subissent une crise d'efficacité, etc. Mais je pense qu'on va en venir avec Monsieur Durugy qui
vient justement,
de rentrer.
Bonsoir François Durugy.
Aller au concret.
Merci donc d'être venu. Je rappelle que vous êtes député, président du nouveau parti écologiste et que vous êtes favorable à l'instauration du vote obligatoire. Je reviens vers vous dans un instant. Je voudrais juste revenir avec vous, oui. Jérémy Moilec, sur... vous nous disiez vous êtes contre par principe, mais est-ce que quand même une vertu du vote obligatoire, ce serait pas une manière de responsabiliser un certain type d'abstentionniste?
Alors ça, ce sont les vertus supposées, les vertus de ceux qui en font la promotion, c'est-à-dire qu'ils font le pari que le vote obligatoire aurait un effet de sociabilisation politique, d'acculturation civique ou d'accoutumance au vote. Sauf que, même si je pense qu'on en parlera plus en détail après, les expériences étrangères nous montrent finalement que le vote obligatoire n'est efficace que par son caractère punitif, que par les sanctions et la nature des sanctions qui sont mises en place.
Alors effectivement, on va revenir sur les exemples à l'étranger un peu plus tard dans ce débat. François de Rugy, en rendant le vote obligatoire, est-ce qu'on va réconcilier, à votre avis, les abstentionnistes avec le vote ?
D'abord, je voudrais dire que c'est la question de qu'est-ce que c'est le fondement de la République, de la démocratie. On aime beaucoup, surtout par les temps qui courent, dans des périodes parfois dramatiques comme les attentats, etc. Ou même aujourd'hui avec l'offensive évidemment très forte du Front National, invoquer la République. Mais je crois que pour beaucoup de nos concitoyens, ça devient très incantatoire. La République, c'est quand même son fondement, le suffrage universel. Or aujourd'hui, un de ses fondements, en tout cas, c'est le suffrage universel. Aujourd'hui, le suffrage universel, c'est virtuel. Se dire que là, aux élections régionales, il y a eu 50% de suffrage de votants. Vous avez des commentateurs qui ont dit il y a eu un regain de participation. On en vient à dire il y a un regain de participation quand il y a 50% de votants. Ah oui, il y en a eu un peu plus qu'en 2010 où il y avait 47 ou 48%, je crois. C'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué, accoutumé au fait que l'abstention soit un phénomène massif et banal on en vient à dire que 50% de participation, c'est bien. Or...
Donc le vote obligatoire, ce serait aussi une sorte d'électro choc symbolique ?
Mais c'est une façon de se dire, quoi qu'on pense de la politique, des partis politiques, de l'offre politique, il y a quelque chose qui nous réunit. J'aime pas tellement les expressions faire société, faire France, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait ensemble un pays, une nation, une communauté nationale, ou même une région, si on parle d'une région, une commune, si on parle d'une commune, il y a des élections à tous ces niveaux-là, c'est de participer au vote. Après, personne n'est obligé de voter pour X, Y ou Z. Ça, c'est la liberté de choix. Parce que certains m'ont dit, c'est une atteinte à la liberté. Non, la liberté de ne pas voter.
S'il y a une fonction, c'est une sanction.
Il y a le vote blanc. Non, mais il y a le vote blanc. Si l'offre politique ne vous satisfait pas, vous avez le vote blanc. En France, il y a même le vote nul qui existe, puisqu'on ne vote pas avec des machines.
Alors, puisque vous parlez du vote blanc, est-ce que ça veut dire que vous pensez que si on instaure un vote obligatoire en France, il faut aussi qu'on instaure de nouvelles règles de comptabilisation du vote blanc en France?
Oui, en tout cas, moi je pense que quand on repose ce principe droit de vote, qui est aussi un devoir civique, c'est marqué sur toutes les cartes d'électeurs, du suffrage universel, à ce moment-là, on commence à tirer le fil d'un certain nombre d'autres réformes démocratiques. Et on dit, ah tiens, pourquoi pas le vote blanc? Il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages en disant, oui, mais si, par exemple, au deuxième tour, enfin au tour décisif d'une élection, si il y a 50% de vote blanc et plus, on considère qu'il faut refaire l'élection. Voilà, on peut.
Donc le vote obligatoire, ce serait juste le début de certaines réformes, c'est ce que vous nous dites.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je ne comprends pas le raisonnement selon lequel on dit « Oui, mais c'est pour que les politiques ne se posent pas de questions. » Mais bien sûr que si. D'abord, les politiques, ils se posent des questions pour une raison simple. Ils veulent être réélus ou élus quand ils se présentent. Et donc, forcément, ils se disent « Comment je vais pouvoir ?» Et aujourd'hui, je dis que beaucoup de politiques, non seulement se sont habitués à l'abstention, contrairement à ce qu'ils racontent à chaque soirée électorale où tout le monde se met à pleurer sur l'abstention, parce que ça arrange un certain nombre de politiques qu'il y ait un faible taux de participation.
Jérémy Wallec, je vois que vous avez envie de réagir
sur le
vote blanc. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement, si d'aventure on mettait cette obligation d'aller voter, la sortir d'une modification de la comptabilisation du vote blanc en France?
Puisque vous m'emmenez déjà sur le vote blanc. Déjà, je tiens à préciser quand même que dans la proposition de loi de M. de Rugy, que j'ai relue aujourd'hui avec plaisir, même si j'en suis opposé, il n'est question en rien de vote blanc. Soyons clairs,
c'est une proposition de loi objet virtuelle. Unique.
Mais très bien.
L'objet unique, c'est le vote obligatoire. Je vous rappelle que le vote blanc, on l'a reconnu comme un vote spécifique, il est décompté. Après, il y a la question, il y a des gens qui voudraient que ce soit comme un suffrage exprimé.
Ça pose d'autres problèmes.
Attendez,
j'étais en train de parler, monsieur Durigien.
Allez-y.
Sur la loi sur la reconnaissance du vote blanc, donc promulguée le 21 février 2014, il y a deux problèmes sur cette loi. Premier problème, les votes blancs ne sont toujours pas intégrés au suffrage exprimé. Donc parler de reconnaissance est un peu fallacieux. Deuxième problème, c'est le décompte. Le décompte, puisque l'Assemblée n'a pas permis, par exemple, de mettre des bulletins blancs à disposition des électeurs. Fait que dimanche dernier, juste je finis là-dessus, dimanche dernier, les électeurs qui voulaient voter blanc, certains ont dû faire leur bulletin eux-mêmes, sachant que ce qui est compté comme blanc, c'est soit une enveloppe vide, soit un bulletin blanc aux mêmes dimensions qu'un bulletin officiel. Imaginez un électeur qui a découpé sa feuille.
Il faut vraiment avoir envie de voter blanc pour voter blanc.
Exactement,
c'est ce que
une petite feuille, c'est compté comme un vote nul. Qui fait que
ça,
aujourd'hui,
on peut le corriger. Moi, je suis d'accord. Bah, pour
très bien.
Un bulletin blanc sur le.
Alors
la
vous
table
en êtes
vote.
D'accord, sauf que c'est pas ce qui s'est fait. Sauf que on a fait en sorte que l'enveloppe vide soit un bulletin blanc, alors que depuis 1852, maintenant, l'enveloppe vide est un vote nul. Et imaginez les citoyens dans le bureau de vote dimanche, parce que j'en ai vu quand je suis allé voter, certains votaient blanc. Et on le voit tout de suite. L'enveloppe est vide et plate. Alors qu'à côté des électeurs qui ont des bulletins à feuille A4, leur enveloppe est bombée. Donc en plus, cette loi-là met à mal le secret du vote. Oui, en
alors,
effet.
Alors, on va pas faire un débat sur le vote blanc, mais est-ce que si d'aventure on modifiait la loi, si le vote blanc était comptabilisé, facilité, est-ce que vous iriez jusqu'à changer d'avis et accepter le vote obligatoire?
Non, pas du tout, puisque moi, ma crainte, si le vote blanc est reconnu aux côtés d'un vote obligatoire, c'est que le vote blanc, finalement, ne devienne que l'abstention d'aujourd'hui. C'est-à-dire une masse indescriptible d'individus dont on ne pourra pas dire grand-chose, qui réunira finalement des électeurs qui auront été contraints de voter blanc puisqu'ils auraient été contraints de voter, et des électeurs volontaires. Et donc les politiques, je ne vais pas vous citer vous, monsieur Durigy, mais les politiques pourront décrédibiliser ce chiffre-là de vote blanc, comme il décrédibilise aujourd'hui l'abstention en parlant de personnes qui vont à la pêche ou qui regardent téléfoot.
Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin et dire qu'il faudrait un vote obligatoire assorti d'une modification de la comptabilisation du vote blanc et aussi de certaines règles électorales? Il faudrait, par exemple, que le président de la République soit élu avec 75% de suffrage, alors je sais pas comment on dit, positif, quoi. Pour des candidats sans vote blanc.
Déjà, parlons, si on peut regarder les résultats du premier tour des régionales et parler des suffrages exprimés, effectivement, si on ne parle que de suffrages exprimés, on s'aperçoit que les partis dits majoritaires ne sont finalement élus que par des minorités. Vote blanc ou pas vote blanc. François Hollande en 2012, en pourcentage des votants, n'a eu que 48%. Mais le système français met en place des majorités dites absolues pour soi-disant mettre, enfin, qui est un gage de stabilité ou de légitimité. Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, l'abstention arrange les politiques puisqu'ils fondent leur légitimité sur la méconnaissance des mécanismes de leur accession au pouvoir.
Pour lutter contre l'abstention, faut-il instaurer le vote obligatoire en France ? C'est le débat de ce soir avec François de Rugy et Jérémy Moilec. Alors François de Rugy, vous dites que vous voulez assortir le vote blanc d'une sanction, vous proposez 35 euros. Pourquoi 35 euros ?
Oh, c'est une question très simple. Vous faites une loi sur le vote obligatoire. Si vous dites le vote est obligatoire, mais si vous ne le respectez pas cette obligation, il se passe rien. Vous savez ce que c'est, mais ça, c'est pas simplement en France, hein. C'est dans tous les pays du monde. L'être humain étant ce qu'il est, très vite, vous n'aurez pas de respect du vote obligatoire.
Donc vous reconnaissez que c'est dû aux sanctions, l'efficacité du vote obligatoire, et non à un effet de sociabilisation politique, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Mais vous savez comme moi, puisque vous êtes un universitaire, que la loi dans une société comme la société française, une société démocratique, la loi, elle est respectée d'abord parce qu'elle est acceptée. Beaucoup de gens acceptent le principe de respecter une loi sans même se poser la question de la sanction. Puis il y a toujours des gens à qui ça ne suffit pas. Donc, la société prévoit toujours, en même temps qu'elle prévoit une loi, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect de la loi.
Les abstentionnistes durs de dur, est-ce que 35 euros, ça va être suffisant pour les obliger à aller voter? Est-ce qu'il faudrait pas faire des sanctions qui soient beaucoup plus importantes pour qu'elles soient justement très dissuasives? Ça existe ailleurs.
Y a déjà des gens qui trouvent que c'est trop. Il y a même des gens qui ont été jusqu'à caricaturer ma proposition en disant que je voulais taxer les abstentionnistes. C'est grotesque. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une loi et lorsqu'il y a une sanction qui est prévue en cas de non-respect de la loi, ce qui se passe, c'est que les gens appliquent la loi. Ça, les gens de bonne foi, les honnêtes gens, ils appliquent la loi. Donc, ils ne vont pas payer, évidemment, l'amende de 35 euros, qui est tout simplement l'amende de classe 1. Hein. C'est tout simplement comme ça que ce chiffre, il n'est pas sorti du chapeau. C'est dans l'échelle des amendes en France, c'est comme ça, il y a l'amende de classe 1. Donc, moi, je crois encore une fois que on change complètement les choses. Il y a des gens qui me disent, mais vous faites le vote obligatoire, puis ensuite, vous allez reconnaître le vote blanc, donc il y aura autant de vote blanc que d'abstention. Eh bien non. L'expérience montre, dans tous les pays où le vote obligatoire existe, nos voisins belges...
Ça fait 150 ans, les Belges.
Pas très éloignés. Eh bien, chez nos voisins belges, le vote blanc doit représenter quelques pourcentages. C'est-à-dire que... Mais c'est normal. Pardon, ça se comprend, c'est du bon sens. Quand vous êtes amené à choisir... Quand vous dites c'est le vote est obligatoire, vous dites bah tiens, tant qu'à faire, je vais choisir. Alors, je vais regarder. Ah, il y a vraiment aucune liste qui m'intéresse. Vous avez vu que là aux élections régionales, il y avait 10 à 15 listes par région. Hein, dire qu'il y a aucune liste qui vous convient déjà. Bon, eh bien à ce moment-là, je vote blanc. Et il y a
un
carré blanc.
Au moins se forcer à essayer de regarder.
Il faut regarder les choses comme ça. La Belgique, c'est intéressant la Belgique parce qu'en effet, ça existe depuis 150 ans. Et vous savez quelle est la vraie sanction en Belgique ? Pour lorsque vous êtes en gros un récidiviste de l'abstention.
C'est au bout.
C'est que vous êtes
perdre
radié.
Son droit de vote pendant une dizaine d'années. Mais alors,
pourquoi ? C'est parce qu'à l'époque, c'était considéré comme précieux le droit de vote. On voit bien que les choses ont changé en 150 ans.
Le vote obligatoire en Belgique a été mis en place avant même le suffrage universel. Donc les Belges sont habitués à ça. Nous, imaginez.
Mais ce qui est intéressant quand même, Jérémy Moilec, dans l'exemple belge, c'est qu'il y a le principe de la sanction qui a été appliqué, alors qui est un peu plus basse, mais qui peut augmenter. Dans le temps, mais cette sanction, elle n'est plus appliquée. Depuis une dizaine d'années, elle est de moins en moins appliquée. Pourtant, effectivement, comme le dit François de Rugy, on va beaucoup voter en Belgique. Alors, est-ce que ça ne montre pas quand même une certaine efficacité ?
Oui, mais là, on peut prendre le cas belge. Moi, je peux vous sortir un autre cas, le cas des Pays-Bas, où l'abstention a explosé quand le vote obligatoire a été supprimé. Et je peux vous prendre le cas australien, où des mouvements de citoyens s'unissent pour faire des collectes pour ne plus payer l'amende de façon collective, ou au Brésil de la même manière. Ce que je veux dire, c'est que... Ah oh bah non, mais...
Brésil, c'est pas le même principe de sanction.
Oui, alors venons sur les sanctions. Les sanctions, on voit bien que dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, là où ça marche, c'est notamment en Suisse, où l'amende est de 700 euros. Ah bah c'est bien, oui, effectivement, ça va marcher, on va tous aller voter. Mais est-ce que ça, c'est pas révélateur de la défaite du politique ?
François de Rugy.
De venir jusque-là. Je finis juste, les abstentionnistes, Pourquoi ils s'abstiennent? La plupart, c'est finalement dû aux non-réponses de besoins sociaux. Vous pouvez faire la moue, mais c'est un manque d'intégration sociale.
C'est aussi un problème du discrédit de la parole politique. On en parle beaucoup ces temps-ci, François de Rugy. Est-ce que vous vous dites pas aussi qu'il y a un problème, notamment de représentativité aussi dans les assemblées? C'est vrai que on le voit, il y a quand même peu de femmes, peu de
un quart de femmes, soit 58 ans de moyenne d'âge, deux ouvriers,
55.
Vous êtes moins âgé.
Une des raisons qui fait qu'il y a cette abstention? Est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi sur ces terrains-là?
Quelle est la poule et quel est l'œuf? L'âge, par exemple, l'âge, ça c'est concret. Dans l'abstention, l'âge joue un rôle clé. C'est-à-dire que moi je peux vous dire, j'ai fait un jour une étude sur la commune dans laquelle je me présentais aux élections municipales en 2008, Orvault, banlieue nantaise, résidentielle, classique, classe moyenne, etc. 60% de participation en moyenne pour une élection municipale. On dit qu'en France, ça, les mairies, c'est du concret. Et puis le maire, c'est une figure appréciée. 60% de participation, donc 40% d'abstention. Eh bien, moins de 40 ans, 40% de participation. Plus de 65 ans, 80% de participation. Du simple au double, selon que vous prenez telle ou telle classe d'âge. Moi, et donc après, vous avez des assemblées plus âgées. Ça c'est étonnant. Bon, quelle est la poule, quel est l'œuf, j'invite chacun à réfléchir là-dessus. On risque d'en débattre.
Vous pensez que c'est le vote obligatoire qui a ramené les jeunes au vote?
Sans savoir.
Avec le creuset qui existe entre électeurs et représentants.
Dans le vote, des gens qui, de fait, s'en sont éloignés volontairement, parce que comme c'est un choix, mais c'est un choix qui est difficile à interpréter. Vous avez dit tout à l'heure, on ne saura pas interpréter le vote blanc. On se perd en conjectures, chacun a sa petite idée.
J'ai dit que vous saurez vous l'interpréter à votre manière.
Non.
Pour justement en jouer.
Moi,
l'interpréter, c'est mon travail d'interpréter le vote blanc.
Ce qui m'intéresse, c'est de remettre, de réinjecter de la participation démocratique dans nos institutions. Et vous savez quelle est l'élection qui passionne le plus les Français, sur laquelle il y a le plus de participation? C'est l'élection présidentielle. Est-ce que c'est l'élection présidentielle, pour reprendre votre critère tout à l'heure, sur laquelle il y a le plus de conséquences concrètes pour les Français? Non. C'est simplement l'élection spectacle, c'est l'élection reine, en quelque sorte. Les gens ont bien compris que c'était quand même le sommet de la hiérarchie de l'État, c'est le président de la République, etc., etc. Et les élections locales, par exemple, municipales, départementales, régionales, que nous venons de vivre, et nous allons avoir le deuxième tour dimanche prochain, sont aujourd'hui des élections à faible participation. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire de savoir si ça a des conséquences concrètes ou pas. C'est une forme de désinvestissement dont on ne sait pas, le désinvestissement qui s'exprime par l'abstention. Est-ce que c'est un désinvestissement
pour réinjecter, comme vous dites,
de lassitude? On n'en sait rien.
Pour réinjecter un petit peu de participation, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer, Jérémy Molek, par exemple, de faciliter le vote, de ne pas avoir à voter que dans son bureau de vote, comme ça peut exister ailleurs en France? Est-ce que ça participerait pas aussi?
Il y a certains pays comme la Grande-Bretagne qui ont essayé le vote par correspondance il n'y a pas si longtemps. Mais ça, après, c'est des mesures administratives qui ne vont pas changer le fond du problème. Le fond du problème, c'est la professionnalisation politique, c'est-à-dire que la grande majorité des élus à l'Assemblée ou au Sénat n'ont fait que de la politique dans leur vie, et ils sont trop éloignés de la sphère sociale. C'est ça la réalité, monsieur de Rugy. C'est le cumul des mandats, donc mettre fin, du coup,
mais vous
à ce cumul.
Que le taux de participation à une élection est différent selon le
attendez,
de profil de candidat.
Et
la réalité
je peux juste
vous
finir,
dément.
Monsieur de Rugy.
C'est
le manque de représentativité sociale et politique des formations politiques qui ne sont pas du tout représentées à l'Assemblée. Il y a un problème aussi dans le mode de scrutin.
Est-ce que sur les bulletins nuls, il nous reste quelques secondes, les bulletins nuls sur lesquels vous travaillez, alors justement, est-ce qu'on lit ce genre de choses, la représentativité?
C'est tout ça qui ressort. C'est ce creuset, mais considérable, entre électeurs et représentants. Et tant que justement les représentants n'auront pas ça en tête, mais ça va continuer. Et c'est pas le vote obligatoire qui lutte contre l'abstention, mais en fait en la supprimant, et ne fait pas du tout renaître la participation. Ça ne fait que supprimer l'abstention, qui va arranger les choses.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Elle sera à réécouter d'ici quelques minutes sur notre site RFI.fr, et évidemment en podcast. Merci à nos deux invités, François de Rugy, député, président du nouveau parti écologiste, Jérémy Moilec, chercheur en sociologie politique à l'Université d'Evry. Merci à Florence Ponce, à Hélène Avril pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour parler d'un tout autre sujet, les femmes et l'Arabie Saoudite.